Il est 13h à Bangui, nous vous invitons à suivre la grande édition de la mi-journée avec Ida Lotindiko. Bonjour Ida.
Bonjour Ursula Merveille Mevala, bonjour à tous. Un groupe d'individus se réclamant d'éléments d'autodéfense du Ombomou demande la démission du préfet de la région. Il l'accuse d'être de connivence avec les éléments armés de l'UPC. Ouverture ce matin à Bangui du 3e séminaire gouvernemental. Les membres du gouvernement se réunissent pour évaluer à mi-parcours les missions de chaque département. Le Fonds monétaire international FMI demande aux autorités centrafricaines plus de transparence dans la gestion des finances publiques. C'est la conclusion d'une mission effectuée du 27 février au 3 mars dans le pays. Football préparatif du tournoi mondial de Montaigu, réservé aux moins de 16 ans en France. Un match test a eu lieu hier au centre technique de Bangoma.
Ouvrons ce journal avec le torchon qui brûle entre le préfet du Ombomou et un groupe d'individus se réclamant d'une nouvelle milice d'autodéfense.
Ces hommes armés demandent la démission du préfet qu'ils accusent d'être de connivence avec l'UPC. Accusation rejetée par l'autorité locale qui, à son tour, pointe du doigt la complicité des députés de la région. Le point avec vous, Parfait Eddy Komessé, bonjour.
Bonjour Ida Lotine Diko, bonjour à tous. Azande, Anikpi, c'est le nom de ce groupe d'autodéfense qui veut dire en français beaucoup de Zandés sont morts. C'est ce qu'on peut lire dans ce document par rapport à l'installation de ce groupe d'armée qui se base sur l'axe Bamouti. Dans une note adressée au préfet du Ombomou, Jude Ngayakon, en date du 3 mars dernier, ce groupe d'autodéfense exige son départ dans un bref délai. Nous demandons à l'État d'envoyer un autre préfet dans le Ombomou car l'actuel est en relation directe avec le groupe armé UPC. C'est ce qu'on peut lire dans cette note d'information. Nous n'avons pas de problème avec la population du Ombomou et le royaume Zandé n'a rien à voir avec ce que nous faisons, écrivent ces milices. Contacté ce matin, le préfet du Ombomou, Jude Ngayakon, se dit serein et affirmé que des députés de la région seraient derrière cette mouvance armée sans donner leur identité.
Mais je pense que les raisons fournies ne sont pas vraiment fondées. Au moment où, immédiatement, rentré en possession de cette lettre, j'ai réuni tous les leaders, la plateforme religieuse et la communauté musulmane. Dans un premier temps, ils se sont dit, attention, monsieur le préfet, ne vous gênez pas. Cette entreprise, nous ne sommes pas consultés.
Dans le document, ce groupe rebelle vous accuse d'être en connivence avec l'UPC.
Cette phrase m'est beaucoup répétée par les honorables députés, qui sont les opposants directs du chef de l'État. Je parle des députés qui ont amené même de l'argent pour recruter. Je vous dis que le chef de rebelles, il s'appelle Pascal, qui a tué même les Zandés.
Joint ce matin, le député de l'une des circonscriptions de Obo, Ernest Mizedio, parle des hommes armés qui seraient venus du Soudan du Sud pour se venger contre les rebelles de l'UPC et il ne se reconnaît pas dans les allégations du préfet. Dans cette même note d'information, le groupe Azande Anikpi de la préfecture du Ombomou s'en prend à la MINUSCA. Il accuse la mission onusienne de n'avoir pas respecté son engagement qui est de recruter des jeunes du Ombomou dans le staff de la MINUSCA basé à Obo. Radio Ndekiluka a tenté en vain d'avoir la version des faits de la MINUSCA.
Merci à vous, Parfait Eddy Komessé.
Revenant à Bangui, le gouvernement se réunit à nouveau pour évaluer les plus de 600 recommandations issues du 2e séminaire gouvernemental.
Durant une semaine, chaque ministre sera évalué selon sa lettre de mission. 6 mois après le 2e séminaire gouvernemental, le président de la République veut, à travers cet exercice, passer en revue les missions qu'il a confiées aux membres du gouvernement. Écoutons le chef de l'État Faustin Constoidera au micro de Armando Yangenji.
Ce séminaire donnera l'occasion à chaque membre du gouvernement de présenter les principales réalisations palpables, quantifiables et mesurables de son département depuis l'adoption des recommandations du dernier séminaire et la réception des lettres de mission adressées par le Premier ministre, chef du gouvernement. Cette auto-évaluation, faite de manière transparente, me permettra de confirmer si besoin en était l'engagement de chacune et de chacun des membres du gouvernement à m'accompagner dans la réalisation de mon projet de société qui a été massivement adopté par le peuple centrafricain.
Le Fonds monétaire international exige du gouvernement plus de transparence et d'amélioration dans la gestion des finances publiques.
C'est la conclusion d'une visite de travail qu'a conduit Albert Tounamama, chef de mission du Fonds monétaire international pour la République centrafricaine, du 27 février au 3 mars à Bangui. Un papier de Martial Steve Mbetisinga rendu par Nathan de Saint-Stéphane Ngombe.
Au terme de cette visite, le FMI alerte sur une réforme structurelle, c'est-à-dire les dispositions à prendre pour faire face à la tension de trésorerie, à la hausse du prix des produits de première nécessité suite à l'augmentation des prix d'hydrocarbures et une situation humanitaire inquiétante. Cependant, la persistance du marché informel de vente d'hydrocarbures inquiète la délégation du FMI. La mission s'alarme de la perte considérable des recettes fiscales de l'État. Par ailleurs, elle encourage le gouvernement à la réglementation du prix face au faible pouvoir d'achat de la population. Le FMI attend du gouvernement centrafricain la modernisation des systèmes de gestion des impôts et des douanes, notamment les mini-recettes générées par tous les ministères. Le Fonds monétaire incite cependant à la mise en œuvre rigoureuse de la loi des finances de 2023. Et si le budget de l'État est déficitaire, la mission, elle, n'annonce pas une solution alternative. En revanche, elle encourage une politique tendant vers une augmentation des prix du tabac ou encore l'application du tarif extérieur en conformité avec la zone CEMAC. En outre, la mission se félicite des avancées dans la mise en harmonie de la loi régissant la crypto-monnaie en RCA et dans l'espace CEMAC. Cette visite du FMI intervient dans un contexte où la Banque mondiale propose au gouvernement plusieurs pistes de sortie de crise à travers son cahier économique, mettant en exergue un potentiel agricole comme l'une des solutions pour le relèvement économique.
Ida, une ligne verte 13-16 pour lutter contre la corruption, qu'est-ce que cela a donné?
Oui, Ursula, en décembre 2022, le gouvernement a mis en place une cellule pour combattre la corruption devenue endémique dans le pays. Trois mois après son lancement, Radio Ndekeluka s'intéresse aux activités de cette cellule. Martial Steve Betisinga.
L'opérationnalisation de cette cellule de veille est désormais une occasion pour les victimes de corruption de dénoncer cette pratique.
Allô, Presse Zabarala.
Allô, Kaïsès vous salue.
Oui, salut.
Que puis-je faire pour vous?
Je suis à Bimbo et je constate malheureusement que sur une barrière vers Nzila, les militaires exigent aux conducteurs de moto-taxi de leur verser de l'argent avant qu'ils ne passent et aucun reçu ne leur est délivré.
S'agit-il des militaires, des gendarmes ou des éléments de la police?
Je ne sais pas exactement, mais juste des hommes en tenue.
Ok, nous prenons en compte votre plainte. Nous allons remonter l'information à nos supérieurs pour des procédures à suivre.
Il n'y a pas que les faits de corruption qui sont dénoncés à travers cette ligne verte. Issa a appelé depuis Zemio pour évoquer des cas d'arnaque qui prennent de l'ampleur dans la localité.
Des arnaqueurs appelés communément Kitander sont à Zemio. Ici, parfois, quelqu'un t'appelle au téléphone et te demande de faire un transfert d'argent à une autre personne via Orange Money. Mais à la fin, tu ne peux pas avoir de résultat. Devant un tel fait, que pouvons-nous faire?
Sur place, Issa reçoit des orientations du service call.
Ce fait que vous venez de nous relater, vous pouvez aller l'exposer à la société Orange. On va retracer les numéros de ces arnaqueurs. Cela vous permettra de déposer une plainte à la gendarmerie, laquelle va ouvrir une enquête pour identifier les auteurs qui pourront par la suite être rattrapés. Ainsi, vous pouvez être remboursé.
Sur plus de 800 plaintes enregistrées en trois mois, les secteurs de la sécurité, de la santé et de la justice sont les plus touchés par cette pratique. William Moussoua, ministre conseiller à la primature, chargé des nouvelles technologies.
Aujourd'hui, plus de 50%, ça touche beaucoup plus la défense, la sécurité, sans pour autant oublier la question de la justice, de la santé, qui représente entre 8 à 10%.
Alors que le pays fait face à une tension de trésorerie, la corruption, elle, s'enracine davantage. Selon William Moussoua, plus de 200 dossiers de faits de corruption sont traités à l'inspection générale d'État et au niveau de la justice.
Un reportage signé Martial Steve Betisinga.
La suite de ce journal avec ce cri de cœur de la communauté musulmane pour la justice, l'égalité, l'équité au sujet de la délivrance de cartes nationales d'identité.
Elle alerte contre les différentes manières de corruption exécutées par les agents de police et de la société Al-Madina en charge de la confection. Selon les leaders de cette organisation, beaucoup d'étrangers se sont procurés ces cartes au détriment des nationaux. Ali Ousmane, porte-parole de Comjec, au micro de Armando Yanginji.
Vous savez, quand vous êtes un fils du pays et que vous avez droit à quelque chose, à un papier de votre pays, et qu'on vous fait tous les tracasseries possibles, et pendant ce temps, vous allez voir le voisin à côté qui est étranger, qui vient de venir et qui a cette carte d'identité. Par quel moyen il a eu ça? Donc, ce qui veut dire que cette carte d'identité est monnayée. Donc, il y a eu la fraude et il y a eu aussi la corruption, donc qui est érigée là-bas en système par certains agents véreux qui ne respectent pas la loi. Et on ne peut pas les laisser faire. Je ne peux pas accepter que, en tant que centrafricain, je ne puisse pas avoir ma carte d'identité nationale et puis je vois un étranger, quelqu'un qui peut venir par des superfluités ou échanger un nom, prendre un nom chrétien, et c'est normal. Le problème, c'est que les papiers sud-africains sont très prisés. Parce que c'est avec ça que certaines personnes, ils vont aller à l'étranger, il y en a qui vont aller en tant que réfugiés à l'étranger. Donc, ils payent avec de l'argent. Donc, c'est une véritable affaire qui est là. Donc, vous allez voir des démarcheurs, vous allez voir tout le monde, c'est-à-dire qui est lié dans cette chaîne-là. Il y a des gens qui se prêtent même pas là-bas. Ils sont chez eux, à la maison, il faut seulement la commande, et puis la pièce, elle retrouve. Et là, en tant que sud-africain, comment voulez-vous vraiment qu'on puisse voir ça et se taire?
Pour le moment, les responsables de la société Almadine en charge de la délivrance de cartes nationales d'identité et le ministère de la Sécurité publique n'ont pas encore réagi à cette nouvelle accusation. Ali Ousmane est l'invité de Radio Ndekeluka de ce lundi. L'intégralité de son interview est disponible sur notre site internet www.radiondekeluka.org.
La grève des enseignants du primaire et du secondaire paralyse toujours les cours dans les établissements publics de Bangui et des villes de province.
Réunis samedi dernier dans leur assemblée générale à Bangui, ces enseignants ont décidé de maintenir leur grève de 21 jours lancée mardi dernier sur toute l'étendue du territoire. Ce durcissement de position fait suite à l'interpellation des trois responsables syndicaux de jeudi à vendredi dernier à la section de recherche et d'investigation SRI. Les autorités reprochaient à ces leaders syndicaux des troubles à l'ordre public, d'incitation à la révolte et incitation à la haine contre le gouvernement. Ces enseignants revendiquent des autorités, entre autres, la revalorisation de leurs primes de craie, l'amélioration de leurs conditions de travail.
Actualité africaine en bref, le Conseil de sécurité des Nations Unies a bouclé hier une mission de 3 jours à Goma en RDC.
Nicolas de Rivière, représentant de la France à l'ONU, a reconnu et condamné l'agression de la RDC par le Rwanda. Le Conseil de sécurité est saisi et va continuer de traiter la question, a-t-il dit. Il est longuement revenu également sur les responsabilités des uns et des autres dans un contexte où la MONUSCO affirme clairement qu'elle n'a pas les moyens de combattre le M23. Concernant le M23, Nicolas de Rivière a insisté sur les sanctions contre ses leaders.
Football préparatif du tournoi mondial de Montaigu réservé aux jeunes de moins de 16 ans en France. Un match test s'est déroulé hier à Bangui.
Le match a eu lieu au centre technique de Bangoma dans le 7e arrondissement. Il a connu la participation de certains joueurs de l'équipe nationale qui étaient au Cameroun. La liste des 18 joueurs qui poursuivent l'entraînement a été dévoilée après cette rencontre. Pour le staff technique, l'équipe est en progression après 3 mois de travail collectif. Bienvenue Bélo a assisté hier à ce match. Reportage.
Les deux gardiens du but, Ganazui et Malik. Ondito, Benito, Mandava.
Ces 18 joueurs retenus vont s'entraîner désormais du lundi au vendredi après-midi au centre technique de Bangoma. Mais ceux de l'académie qui ne sont pas sur la liste peuvent venir aussi s'entraîner chaque mardi et jeudi avec leur père à l'académie. Les sélectionnés sont contents de poursuivre cette aventure. C'est le cas de Boaz Mandaba, latéral gauche.
Je me sens à l'aise avec tout ce que les coachs nous montrent ici. J'essaie de m'appliquer et je vois que ça marche bien. Je remercie le staff technique qui m'a retenu car ils ont pensé que je peux amener quelque chose dans cette équipe nationale de mon pays.
Côté staff technique, c'est la satisfaction car les jeunes footballeurs progressent bien. Pascal Lafleuriel, responsable du programme de soutien technique PST au sein de la Fédération Centrafricaine de Football.
Nous ne travaillons pas que pour Montaigu. Montaigu, c'est une étape. Nous travaillons pour toutes les étapes qui vont venir. Évidemment, il y a des progrès de réaliser parce que quand nous faisons attention au contenu que nous mettons dans nos entraînements, évidemment, on ne peut que constater des progrès. Donc là, les enfants ont fait des progrès. On peut s'entraîner une vie. Si on ne joue pas la compétition, on n'aura pas les progrès attendus.
Serge Hippolyte Mayer, membre du comité exécutif de la Fédération Centrafricaine de Football, apprécie le travail réalisé jusque-là par le staff technique.
Au staff technique, ils sont en train de faire un bon boulot. Vous avez constaté avec moi des efforts du staff technique. C'est quand même une première pour notre pays de donner l'occasion à nos jeunes talents d'attirer l'attention internationale. Sur ces jours-là, pour que peut-être d'ici demain, on pourra parler quand même du football centrafricain à l'extérieur.
La Fédération centrafricaine de football a organisé le week-end dernier un stage en faveur des jeunes fauves de la diaspora à Metz, en France. Bruce Abdoulaye a été nommé sélectionneur national des moins de 16 ans et c'est lui qui a conduit le stage. Ces jeunes footballeurs de la diaspora seront fusionnés avec ceux qui seront retenus ici à Bangui pour bâtir une équipe nationale solide des moins de 16 ans.
Football en province, la finale du challenge Denis Sassou Nguesso enseignant masculin s'est joué hier à Bombari dans la Waka.
Le trophée a été remporté par Olympique Réal de Bombari devant l'équipe de Fatima 1-0. Samedi chez les filles, Coton Sport a battu ORB 1-0. Chez les moins de 17 ans, victoire de Fatima sur DFCUK 2-1. Ainsi prend fin ce journal préparé par toute l'équipe de la rédaction. Merci à vous de l'avoir écouté. Tout de suite, la version en sango.